savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans Savoir Plus, on s'intéresse au CD2E. Le CD2E, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de développement des éco-entreprises qui est situé à Lensangoël, sur l'ancien site minier du 11-19, lieu qui abrite depuis de nombreuses années maintenant des structures comme Culture Commune, le CPIE Chaîne des Terries ou encore le CERDD, Centre Ressources du Développement Durable. Le 10 octobre dernier, le CD2E a présenté à la presse un certain nombre de projets centrés sur le bâtiment durable et sur les innovations en matière de performance énergétique de ces bâtiments. Et l'enjeu est de taille. En effet, le bâtiment consomme 45% de l'énergie française et s'avère responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. En outre, on estime que 800 000 logements en Hauts-de-France sont des passoires thermiques. En clair, l'été, ces logements ne protègent pas suffisamment de la chaleur, nécessitant souvent l'ajout de climatisation. Et l'hiver, ils doivent être beaucoup chauffés car ils ne sont pas assez isolés. Dans les deux cas, cela aboutit à une augmentation des dépenses d'énergie et donc à une progression des gaz à effet de serre. Pire encore, d'après l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 5% des rénovations censées répondre à ces problématiques seraient efficaces, ce qui pose véritablement question. Le CD2E a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et lance en région deux nouveaux outils. D'une part, la garantie de performance énergétique, avec pour objectif d'accompagner les propriétaires dans la mise en œuvre de rénovations durables et avec des performances à la hauteur de ces enjeux. Et d'autre part, le théâtre de l'éco-construction, un nouveau lieu unique en Europe qui permettra de sensibiliser et de former les professionnels du bâtiment à l'éco-construction et à leur faire découvrir des matériaux très performants et éco-responsables. Jean-François Caron, le président du CD2E.
En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est d'une certaine manière une nouvelle étape dans la vie du CD2E qui a maintenant entre 17-18 ans d'existence. Donc, dans un premier temps, ça a été un travail de défrichage, qu'est-ce qu'il y a dans les laboratoires de recherche et quel réseau d'entreprises. Ça, c'était les premières années CD2E. Puis, on a eu le développement de la centrale solaire, du pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, un travail sur le bâtiment avec la Fédération française du bâtiment. Enfin, on a eu des développements importants. Et on entre maintenant dans la troisième étape du CD2E, qui est en plein régime de croisière, à un moment où, par exemple, la question du bâtiment et de l'économie d'énergie devient de plus en plus centrale. Enfin, ici, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, mais on est en train de découvrir que, oui, le dérèglement climatique prend un caractère d'urgence absolue et qu'il va falloir trouver des réponses. Donc le CD2E a cet intérêt qui crée des emplois, il soutient l'émergence de filières dans le domaine du bâtiment durable, la rénovation, par exemple. Et là, on a un gros travail sur ce qu'on appelle la garantie de performance énergétique, c'est-à-dire que quand on intervient sur un logement, on sait exactement quel type de résultat on va obtenir, quel argent les gens vont gagner, quelle diminution plutôt ils vont avoir sur leur facture. Et du coup, c'est de nature à déclencher de façon massive de la rénovation de l'habitat. Donc, il y a un chapitre sur le développement durable. Il y en a un sur le développement des énergies renouvelables, le solaire, la géothermie, l'éolien et d'autres. Et puis, la question de l'économie circulaire qui est posée. Donc, sur ces étapes-là, l'élément peut-être nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de travail avec le monde de l'entreprise qui fait des partenariats avec nous pour enclencher. Je vais prendre juste un exemple, c'est la filière chanvre dans les murs, qu'on travaille avec Maison et Cité Soginorpa pour, à terme, aller vers, on l'espère, 2000 logements qui pourraient être isolés aux chanvres. Et derrière, c'est une filière pour les agriculteurs qui le cultivent, c'est une filière pour les industries qui le transforment. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est, je dirais, cette nouvelle étape et ce passage à l'économique de plus en plus amplifié qui caractérise l'évolution de cet outil.
Au-delà des discours, le CD2E veut montrer ce qui est faisable concrètement dans les chantiers du bâtiment, d'où la réalisation de ce théâtre de l'éco-construction. Les précisions de Jean-François Caron.
Donc, dans ces étapes, il y a d'une part de plus en plus d'actions concrètes avec le monde économique, mais nous-mêmes, on franchit des crans et on a ici, on est sur le site du 11-19, l'ancien site minier, la fosse 11, la fosse 19. On a une salle des machines qui est en cours de réhabilitation, qui va devenir une extension du CD2E, sur extension sur laquelle on met en scène tous les écomatériaux. Ça peut être, par exemple, sur les isolants, ça peut être la laine de chanvre, la laine de bois, la cellulose, la paille, et avec les procédés constructifs. Donc pour ça, on a besoin d'endroits qui soient visuels, pour que les architectes, pour que les bailleurs sociaux, enfin les constructeurs au sens large, osent utiliser ces produits qui ne dépendent pas du pétrole, qui sont dans des filières locales et dont l'impact écologique est considérablement meilleur que, par exemple, la laine de verre qui est de la transformation du pétrole. Donc, cet espace qu'on peut appeler un showroom, un endroit où on donne à voir et à comprendre, c'est très important dans le développement du CD2E.
Il y a quelques années, le CD2E avait entrepris la rénovation d'une ancienne maison d'ingénieurs des mines à l'aide de toutes les innovations technologiques et éco-responsables disponibles afin de démontrer le potentiel de ces innovations sans se préoccuper du coût. C'était le projet Réa Futur et l'objectif aujourd'hui est largement atteint puisque les factures énergétiques pour cette grande maison de 295 mètres carrés ont été divisées par 20. Actuellement, le CD2E travaille avec un bailleur, Maison et Cité, afin de tester une rénovation rentable qui permettrait de diviser par 4 la facture énergétique de ces logements. Il s'agit de Réa Futur 2, l'objectif étant de réaliser cette rénovation à grande échelle si les résultats sont concluants. Jean-François Caron, le président du CD2E.
Alors, dans Réa Futur, on a eu une première étape sur une maison d'ingénieur où on a testé différentes technologies avec l'université. D'ailleurs, on a des capteurs dans les murs. On est capable de lire le taux d'humidité, la performance en matière d'isolation, selon qu'on est au nord, au sud, etc. Ensuite, on est passé à cette étape sur 6 maisons de mineurs, parce que d'une maison d'ingénieur à des maisons de mineurs, ben, par exemple, les surfaces sont beaucoup plus petites et il faut qu'on mette le paquet sur l'épaisseur des isolants qui doit être le plus faible possible, ce qu'on n'avait pas comme problème dans la maison d'ingénieur. Et la suite de ça, c'est ce qu'on appelle la garantie de performance, dont je disais un mot tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de garantir à un opérateur que s'il fait, mettons, 20 000 euros de travaux, eh bien, à l'arrivée, il aura une performance en matière d'isolation considérablement améliorée.
Et pour le maire de Los Angoël, bien rénover les anciens logements miniers ne peut qu'améliorer la situation des ménages qui les occupent actuellement.
Nos habitations sont des passoires énergétiques, des passoires thermiques. Les maisons des mines, on avait le charbon gratuit, donc on n'a jamais considéré que les isoler, c'était hyper stratégique. Maintenant qu'il n'y a plus charbon gratuit, que l'énergie ne fait que monter dans les prix, c'est en moyenne plus 5% hein, depuis 10 ans sur la question d'énergie. Donc on a de plus en plus de ménages qui ne savent plus chauffer leur maison, qui chauffent juste une pièce. Et donc on voit bien qu'il y a un gisement énorme. Rien que les 60 000 logements miniers, rien que ça, c'est considérable. Donc c'est des enjeux d'emploi, c'est des enjeux de pouvoir d'achat pour des familles pauvres, c'est des enjeux d'environnement, puisque c'est autant de carbone qu'on ne relargue pas. Donc le gisement est monstrueux. Et on est au tout début de cette nouvelle étape. Après, il faut aussi que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter tout ça, enfin, sur les taux de TVA, sur le coût, enfin, sur toute la taxation de ces produits-là. Mais en tout cas, techniquement, on sait faire et on sait dire dans quelles conditions ça peut passer sur le plan économique.
Ma station, ma région, ma passion. Radio Plus.
Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus et ce matin nous parlons du CD2E de Los Angoël et des bâtiments durables avec ces deux outils lancés par le CD2E, la garantie de performance énergétique, mais également le théâtre de l'éco-construction. Victor Ferreira, le directeur du CD2E, a tenu à rappeler lors de cette visite de presse les enjeux environnementaux liés au bâtiment en lien avec la loi dite Grenelle 1 de 2009.
Si on regarde le bâtiment, aujourd'hui, c'est 42%, 43% même, de notre consommation énergétique. C'est absolument énorme. C'est quasiment autant que les transports. Et quand on se pose la question comment réduire notre facture énergétique globale, nationale, on sait que c'est très complexe sur la partie transport. On sait que ça demande à basculer de technologies, nos technologies. Il y a des changements majeurs dans les façons de vivre. On sait que c'est un gros sujet et que c'est très complexe. Par contre, dans le bâtiment, qu'est-ce qui nous empêche de s'engager fortement sur le bâtiment? C'est a priori beaucoup plus simple. Sauf que c'est a priori. Parce que si vous regardez les chiffres, en 2009, la loi Grenelle 1 visait, certainement certains d'entre vous le savent, donc les 500 000 rénovations par an, d'une part, mais aussi une baisse, et il était prévu de baisser de 38% la consommation énergétique des bâtiments en 10 ans, d'ici 2020. Quand on parle de bâtiments, on a à la fois le tertiaire et le logement. Si on prend le logement, on était à 40 millions de tonnes équivalent pétrole. On était à 40 en 2010. À combien on est aujourd'hui? Vous avez une idée? C'était prévu moins 38%. On est à combien? Combien?
35.
35? On est à 40. De 40, on est passé à 40. Donc on a un problème. Et chaque année, on a des nouveaux plans de rénovation du bâtiment. Donc à un moment donné, la question c'est comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? On devait être arrivé à un niveau de 25. Donc quand vous disiez 35, déjà vous disiez qu'on n'y était pas arrivé. Et ben on est loin du truc. On s'est amélioré sur le tertiaire, mais pas sur le logement. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que quand vous faites un investissement dans la rénovation des bâtiments, vous avez plein d'avantages. Les gaz à effet de serre, on en a parlé. Mais il n'y a pas que ça. D'abord, c'est le pouvoir d'achat. On peut améliorer le pouvoir d'achat des habitants. Parce qu'on va gagner en facture énergétique et par conséquent, en pouvoir d'achat, à condition que les annuités de coût des travaux soient inférieures aux gains énergétiques. Donc là, on a une question de rentabilité, c'est-à-dire quel est le pouvoir d'achat à la fin de mes travaux. Donc il y a un enjeu de pouvoir d'achat, il y a un enjeu de santé. On est dans une région ici, on a 800 000 en région Hauts-de-France, 800 000 passoires thermiques. 800 000. Des gens qui vivent dans des conditions, ils n'ont plus d'argent pour se chauffer à la fin du mois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes de santé derrière. Beaucoup. Donc c'est un problème sanitaire majeur. C'est une question économique aussi, parce que, on le voit bien, la rénovation est porteuse d'une énorme quantité de main-d'œuvre nécessaire pour la réalisation de la rénovation. Donc, comment ça se fait qu'on ne descend pas? On s'aperçoit, et là c'est les études ADEM, les études Trémy ou autres que vous connaissez peut-être, quand on veut rénover un bâtiment, la première raison, c'est le confort. C'est le confort. La deuxième raison, c'est qu'on veut voir un résultat sur nos factures énergétiques. Et quand on regarde les freins, on s'aperçoit que les freins sont, un, à 54%, pas de financement, et deuxième point, c'est la visibilité de l'impact économique de l'opération. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup d'investir. Donc, dans la réalité, concrètement, on veut faire des travaux, et finalement, on fait le minimum, c'est-à-dire pour le confort, mais la phase du dessus, qui nous coûterait peut-être que 10 000 ou 10 000 euros de plus, par exemple, qui permettrait d'avoir une vraie différence sur notre facture, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas de visibilité sur le résultat. Donc, on a, selon l'ADEME, là encore, à peine 5% des rénovations qui sont performantes. 5%. Mais qu'est-ce qu'on appelle une rénovation performante? Et là, c'est le travail qu'on a fait depuis des années. On a réalisé Réafuture 1, qu'on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Réafuture 1? C'est une opération pilote unique en France. Où on s'est dit, on va mettre tous les curseurs au maximum sur ce qu'on peut faire en termes techniques sur le bâtiment durable, qui comprend à la fois les enjeux thermiques de rénovation, mais les enjeux aussi d'économie circulaire, la gestion des déchets, le réemploi d'un certain nombre de produits, et puis les biosourcés. Et puis, donc on verra tout à l'heure dans le détail, je crois que c'est 70 capteurs un peu partout sur le bâtiment, et on a une thèse, une personne en thèse, pour analyser tous ces chiffres-là, pour savoir comment réagissent les matériaux en fonction de l'humidité, en fonction des températures, etc. Et on a pu, résultat, on a pu diviser par 20 la consommation énergétique. Par 20. Qu'est-ce qu'on appelle une rénovation performante pour l'ANA, par exemple? C'est moins 25%. Et là, on a réussi à faire moins 95%. Donc, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de mise en œuvre. Après cette réalisation Réa Futur 1, on a fait Réa Futur 2. Réa Futur 2, c'est, on s'est dit, ok, moins 20, c'est quand on a les moyens, c'est une opération pilote. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Et on a fait 6 maisons, qui sont ce qu'on a appelé la phase 2 de Réa Futur, 6 maisons, où là, l'objectif, c'était le facteur 4. Comment est-ce qu'on peut diviser par 4 la facture énergétique? Et là, on a des maisons qui, depuis un an, ont été livrées, d'autres qui sont en train d'être livrées. Mais en tout cas, celle qui est livrée depuis un an, on a bien obtenu le facteur 4. On est passé de 2500 ou 2400 à 600 ou 700 euros par an. Donc, c'est possible. Et on l'a démontré. Maintenant, nous, on est dans la phase suivante. Et la phase suivante, c'est la massification. On a pu démontrer qu'en travaillant de façon intelligente avec les professionnels, en général en groupement, mais en tout cas ensemble, ça c'est un élément clé, eh bien on peut faire de la performance. Aujourd'hui, la phase de massification, elle se situe avec deux approches. Une approche qui est régionale, qui est dans le cadre de l'ERBM, l'engagement du renouveau pour le bassin minier, il y a 23 000 logements à rénover. Eh bien, depuis 2 ans, on travaille notamment avec la délégation interministérielle et avec les bailleurs sociaux concernés pour que le niveau d'exigence soit au maximum pour qu'on atteigne, dans certains cas, le facteur 4, mais à minima, divisé par 3.
Victor Ferreira nous emmène ensuite sur le chantier du théâtre de l'éco-construction qui existe en fait depuis 2012 au CD2E mais qui prendra, dans l'ancienne salle des machines du 11-19 de Los Angeles, une nouvelle dimension.
On a essayé de mettre en place ce qu'on préconise, c'est-à-dire l'utilisation de biosourcés, notamment. Ce sera un espace de sensibilisation et de formation. En fait, avec les professionnels du bâtiment, il y a un vrai enjeu, c'est de la montée en compétences sur les questions de bâtiment durable. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des professionnels avec une certaine expérience sur ces enjeux de bâtiment durable. Le deuxième sujet, c'est de les faire travailler ensemble. Donc, le théâtre qui existe depuis 5 ans maintenant est un lieu à la fois de sensibilisation, mais aussi de formation, aussi bien pour les professionnels que pour les demandeurs d'emploi. Les maîtres d'ouvrage, et en particulier les collectivités ou les bailleurs. Ce qui se passe, c'est que souvent, dans nos formations, les gens nous disent « Ah, c'est super intéressant ce qu'on fait, ce qu'on apprend ici, mais personne ne nous le demande. » Ni les particuliers, ni les bailleurs, ni les collectivités, ni les entreprises. On ne le demande pas parce qu'on ne sait pas. Donc, il y a un enjeu à sensibiliser les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage. Donc, cet outil, finalement, il sert plus aux maîtres d'ouvrage qu'aux professionnels. Les professionnels, c'est plus ponctuellement, dans une formation, on vient visiter le théâtre pendant 1 heure ou 2. Puis on a les étudiants aussi. C'est important de les intégrer à cette vision un peu globale des nouvelles façons de rénover, où on ne fonctionne plus en silo, le plâtrier, le plombier, l'électricien, etc. Et comment on travaille de façon coordonnée, parce que sans ça, on ne peut pas atteindre le niveau de performance attendu.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute de Savoir Plus en partenariat avec le département du Pas-de-Calais. Et on parle ce matin du CD2E de Los Angeles et des solutions en matière de bâtiments durables et écologiquement responsables, autrement dit pour aboutir à des solutions très économes en énergie. Frédéric Laroche est le responsable du pôle bâtiment durable du CD2E de Los Angeles. Il nous fait découvrir l'actuel théâtre de l'éco-construction.
Ce lieu, c'est un lieu pédagogique. Il y a plusieurs années de vie, donc on voit qu'il a déjà un peu vécu. Mais c'est un super lieu parce que avec son aspect modulable, avec des maquettes à l'échelle 1, avec des écorchés, avec des matériaux de différentes natures, c'est vraiment un outil. Et puis tout ce parcours pédagogique avec les panneaux qui indiquent beaucoup d'informations, c'est vraiment un parcours qui s'adapte sur mesure aussi bien aux apprentis qui sont dans les lycées de bâtiment, aux professionnels qui vont en formation ou aux clubs professionnels qui viennent aussi visiter. les techniciens des collectivités qui viennent régulièrement aussi. Bref, il y a des élus aussi, ben les personnes des médias aussi. Ben bref, on a vraiment tous les acteurs du secteur qui viennent régulièrement, qui s'informent, qui échangent pour comprendre ce que ça veut dire bâtiment durable. Et bon, je vais faire un zoom sur la question de rénovation parce que notre fil rouge aujourd'hui, c'est quand même la question, on parle de garantie de performance et on parle de garantie de performance pour la rénovation des logements qui est un enjeu majeur. Et c'est vrai, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il n'y a pas ça dans le logement individuel diffus, donc on va continuer là-dessus sur la rénovation. Alors on a une série de maquettes, mais je vais zoomer sur celle-là, et puis ensuite vous parler spécifiquement ici plutôt des éco-matériaux, parce que c'est un sujet qui est travaillé depuis plus de 15 ans. Au CD2E, on a une expertise assez forte, régionale, on était d'abord connu pour ces questions-là, le travail sur les éco-matériaux, les filières courtes, mais aujourd'hui, au-delà de parler des éco-matériaux et des filières courtes, la question c'est pourquoi on s'intéresse à ça et en quoi c'est intéressant quand on parle de rénovation. Et donc là, vous avez une maquette à l'échelle 1. Donc vous voyez, c'est un morceau de maison avec un mur en brique extérieur. On voit même ici l'ancien enduit. Vous avez peut-être certainement chez vous, s'il n'y a pas fait de rénovation et qu'il n'y a pas encore d'isolation. Bref, il y a les plafonds, le plancher bas. Il y a tous les éléments de la maison. Et ici, cette maison, on a à la fois construite pour indiquer les éléments d'origine et puis ensuite pour montrer les pratiques sur la rénovation. Et quand on parle de rénovation et de bâtiment durable, il y a deux éléments majeurs sur lesquels on s'intéresse. C'est d'un côté la question de réduire la réduction la plus importante des factures d'énergie. Et puis ensuite, apporter le confort et la qualité d'usage maximale pour les habitants, pour les occupants, pour les collectivités, par exemple. Quand on zoome sur la question de la réduction forte des factures d'énergie, en fait, c'est pas si compliqué que ça, en soi, de comprendre les concepts. En tout cas, il y a trois choses à vraiment regarder de près. C'est la question de l'isolation. Il y a la question de l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire surveiller les fuites d'air, et puis enfin les questions de la ventilation, parce que quand on peut faire des bâtiments très bien isolés, étanches, mais s'ils ne ventilent pas, il va y avoir un problème de qualité d'air intérieur et un problème de santé pour les habitants. Donc c'est vraiment ces trois paramètres, c'est essentiel. Et puis ensuite, quand on parle de confort, alors bien sûr, les questions de fuite d'air, ça joue sur le confort, mais il y a aussi la qualité d'air intérieur, c'est-à-dire ce qu'on respire dans le logement. Alors bien sûr, il y a les liens avec ce qu'on vient de dire juste avant sur la performance, mais il y a aussi la question de ce qu'on y met. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de confort et de qualité d'air intérieur, on sait que les matériaux de construction contribuent aux émissions de polluants dans le logement. Donc le choix des matériaux, c'est pas anodin. Non seulement déjà pour la qualité d'air des logements, mais aussi pour la réduction forte des besoins d'énergie et donc de la facture finale pour les habitants. Et si on parle des matériaux, en fait, pourquoi on s'intéresse tant aux éco-matériaux, notamment en rénovation? C'est parce qu'en rénovation, on a des matériaux comme la brique, ici en région. Alors je sais qu'il n'y a pas que des personnes de la région aujourd'hui, mais en région, il y a le système de construction à base de briques, il est extrêmement important. Et on a une proportion du parc qui est extrêmement importante en région avec la brique. Et cette brique, en fait, contrairement à des matériaux, on va dire, plus récents, avec le béton par exemple, ou d'autres systèmes constructifs, eh ben, elle laisse passer l'humidité. C'est-à-dire que quand il pleut, et puis en région, on est plutôt bien servi là-dessus, l'humidité, elle passe dans les parois, mais c'est un phénomène normal, on va dire, qui fonctionne normalement. Elle passe dans les parois sous forme de vapeur d'eau. Et en fait, cette question de vapeur d'eau, le risque, c'est que quand on rénove, on peut mettre des matériaux devant ou derrière, on parle parfois d'isolation extérieure ou à l'intérieur, où on peut mettre des nouveaux matériaux, des enduits, des crépis à l'extérieur, on peut mettre à l'intérieur des enduits aussi, des peintures, enfin, bref, tout ce qu'on rajoute devant ou derrière, ça peut créer des désordres, parce que quand on a une brique qui, elle, respire et diffuse la vapeur d'eau, eh bien, quand on fait des choix techniques au moment de rénover, c'est pas anodin. C'est que sur le temps, la brique, elle, va continuer à diffuser cette vapeur d'eau. Mais par contre, les matériaux derrière, peut-être pas. Et c'est là où ça va poser problème. Et donc, on peut avoir d'excellents matériaux isolants, comme le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche, mais qui, en fait, pour certains d'entre eux, laissent passer difficilement cette vapeur d'eau. C'est leur caractéristique. Au-delà d'être des matériaux polluants ou avec un impact environnemental pas très bon, mais leurs propriétés isolantes sont là, donc on va pas les contredire, elles existent. Seulement, sur la durée, c'est là où on va avoir des problèmes d'humidité, de sinistres, de moisissures, parce que on n'aura pas choisi les bonnes techniques. On va dire, dans la construction neuve, ces questions-là sont bien traitées. Dans la rénovation, comme les normes sont pas très ambitieuses, en gros, on peut rénover à peu près comme on veut, alors il y a quand même certaines choses à respecter, hein. Eh bien, les risques de dégradation, notamment dans la rénovation de l'habitat privé, elles sont extrêmement fortes. Alors, je dis ça parce que les bailleurs sociaux, qui est aussi l'habitat privé, mais le logement social, il est mieux organisé pour prendre ça en compte et participe à des programmes innovants aujourd'hui pour regarder ça de près. Et notamment, nous, dans nos missions, si je parle de logement social, aujourd'hui on travaille avec des grands bailleurs sociaux. Alors peut-être ceux qui sont sur le territoire, vous connaissez Maisons et Cités, qui est le plus grand bailleur régional avec près de 70 000 logements en région de France, principalement sur tout le territoire du bassin minier. Eh bien, ils se sont rendus compte que eux, leur parc, il est quasi exclusivement à base de briques. Et en fait, ils voient bien que sur les questions de confort, de pérennité, de renouvellement, des placos, des isolants, eh bien, en fait, ils ont une maintenance qui fait que tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils renouvellent ça régulièrement parce que ça dysfonctionne. À un moment donné, il y a de l'humidité, les isolants, il y a des fuites d'air un peu partout. Il y a plein de problèmes. Et en fait, en travaillant avec nous sur la longue durée, et on verra après les exemples Réa Futur 1, Réa Futur 2, on a creusé certaines autres filières qui, eux, répondent à ça et qui disent, au-delà de la performance, permettre de bien traiter les questions d'humidité notamment, et s'adaptent beaucoup mieux à l'habitat ancien. Donc c'est le cas de la plupart, je ne vais pas dire tous parce que ce serait faux et on n'est pas là pour dire des contre-vérités, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éco-matériaux qui, aujourd'hui, contrairement aux matériaux que j'ai pu citer, eux, s'adaptent très bien à l'habitat ancien.
Frédéric Laroche revient sur le rôle joué par le CD2E dans le programme ERBM, engagement de l'État pour le renouveau du bassin minier, signé en 2017 et qui prévoit notamment la rénovation de dizaines de milliers de logements du territoire avec des critères élevés en matière de performance énergétique.
ERBM, c'est un grand programme pour la rénovation du territoire, c'est même plus que de rénovation en fait, c'est de transformation et d'accompagnement du territoire vers une transition écologique et sociale sur plein d'aspects, mais c'est vrai que le sujet majeur, c'est la rénovation des logements miniers en logement social. Et ERBM, ça veut dire engagement pour le renouveau du bassin minier, et c'est un partenariat qui a été mis en place par le gouvernement il y a 2 ans, avec les 2 départements, la région et toutes les collectivités concernées. Donc c'est extrêmement important, et concrètement, c'est une ambition de rénover 23 000 logements du logement social en 10 ans, ainsi qu'une proportion importante de logements privés. Donc et si on en parle beaucoup, notamment sur ce territoire, c'est parce qu'il y a des fonds publics qui sont mis de manière extrêmement ciblée et importante pour aider les bailleurs sociaux à rénover leur parc. Et de fait, déjà, le défi pour ces bailleurs sociaux, c'est de doubler leur capacité de rénover chaque année, ce qui est énorme. Et ensuite, là où on intervient, nous, CD2E, sur ce programme, c'est d'accompagner les bailleurs sociaux, donc principalement Maisons et Cités et puis SIA, qui sont 2 grands bailleurs sociaux, pour, avec une délégation interministérielle et l'ensemble des partenaires, à mettre au point un référentiel partagé qui tient compte de tout ce que je viens de dire là. En fait. Donc de placer des critères pour que, sur les questions d'écomatériaux, on ne dit pas d'emblée, il faut que vous mettiez des écomatériaux, parce que ça n'a pas de sens. Nous, on n'est pas là pour préconiser telle ou telle solution technique. On est là pour dire, on veut un habitat qui consomme peu d'énergie et qui soit confortable pour les habitants. C'est vraiment les 2 critères. La question, c'est après, comment on fait pour aider là-dessus. Et donc, sur la question de la performance, on aide à ce que dans ce référentiel, il y ait des choses qui soient mieux traitées. Par exemple, que les isolants ne s'arrêtent pas juste au plafond, mais aillent plus loin parce qu'il y a des déperditions supplémentaires. Donc, c'est là où on gagne les vrais euros finaux pour réduire la facture de chauffage. Quand Victor parlait de diviser par 4 les consommations d'énergie, en fait, c'est pas très compliqué techniquement. C'est juste qu'aujourd'hui, dans la rénovation, on tient jamais compte de plein de petits détails. C'est comme ça, c'est une filière qui fonctionne de cette manière-là, donc il faut accompagner cette approche-là plus précise. Et donc dans le programme ERBM, les bailleurs sociaux doivent s'engager là-dessus, et ils le font. Et notamment, ils ont mis au point, avec nous, hein, des missions de contrôle externe pour toute la chaîne d'acteurs, aussi bien des études qui sont faites que des travaux, pour qu'on veille à tous ces points de détail, en fait. Et sur la question des éco-matériaux, pour y revenir, Maisons et Cités est très volontaire, puisqu'en fait, ils nous ont dit, on a bien vu l'intérêt de ces éco-matériaux. On y a travaillé ensemble depuis plusieurs années, mais sur des prototypes, sur quelques maisons. Ils ont bien vu pour leurs locataires que, par exemple, isoler avec du béton de chanvre produit localement, ça porte des gros plus, parce qu'ils voient qu'il y a des filières économiques. Bon, c'est plutôt pour l'image extérieure, mais pour eux, leur logement, ils voient bien que les locataires sont plus satisfaits, ont un meilleur confort, et puis les factures de chauffage baissent. Donc là, ils y voient un vrai intérêt pour eux. Et puis que ces factures de chauffage, peut-être ils ne vont pas rénover et redémonter la paroi dans 10 ans ou dans 15 ans, mais peut-être dans 20 ou 30. et donc ça va diminuer leur coût après ultérieur pour le maintien à long terme de ce patrimoine ancien et qui a de la valeur, puisque vous le savez sans doute toutes et tous, je pense que Jean-François en a parlé tout à l'heure, le bassin minier est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a besoin de travailler sur ce patrimoine dans la durée. Voilà, c'est à travers ces éléments-là où la question des filières écomatériaux arrive en fait. C'est pas d'emblée, on dit on veut absolument des écomatériaux, mais on veut un habitat performant et avec un confort intérieur. Les écomatériaux émettent très peu de composés organiques volatiles. Alors c'est pas 100%, il y en a quelques-uns où il faut regarder parfois les liants qu'il y a à l'intérieur ou des choses comme ça. En tout cas beaucoup moins que d'autres. Et puis par ailleurs, ils apportent une performance plus garantie pour la rénovation dans la durée. Et ça, on le teste, puisque comme disait Victor, on a 80 capteurs de l'autre côté dans le bâtiment Rief Turin, que vous allez voir juste après. Et ces 80 capteurs nous permettent un peu de faire comme ce qu'on a tous suivi avec l'affaire Volkswagen, c'est que derrière, il y a les tests usines, c'est-à-dire avec les certificats qui sont délivrés au niveau national pour chaque matériau. Et après, il y a les conditions réelles qui sont un peu différentes. Et ben, on mesure avec tous ces capteurs les conditions réelles un peu différentes pour montrer que ces écomatériaux, dans la durée, ils apportent une meilleure réponse. Donc c'est ça l'intérêt. Et donc concrètement, eh bien ici au CD2E depuis 15 ans, on accompagnait par exemple des filières de recyclage. Peut-être vous connaissez le matériau Métis. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? C'est en fait un matériau isolant fabriqué par Le Relais. Vous avez peut-être vu à la télé les jeans, en fait quand vous apportez vos vêtements dans des bennes de collecte, en fait il y en a 50% qui partent dans une usine qui est ici à 15 km d'ici. Et qui sert à faire des isolants. Et cet isolant-là, ben, comme c'est plutôt des acteurs de l'insertion qui sont lancés dans cette activité économique, ils n'avaient pas connaissance du monde technique du bâtiment, on va dire, c'était pas leur métier premier. Donc le rôle du CD2E en tant que centre ressources et pôle d'expertise régional, c'était de les aider à y voir clair, dire comment on fait pour mettre sur le marché un produit comme ça, à quelle porte il faut frapper, quel dossier il faut remplir, quel test technique il faut réaliser. Ben bref, c'est accompagné de bout en bout. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait. C'est pareil, en ce moment, il y a une action collective pour peut-être, pour ceux qui sont plus spécialisés, vous savez, il y a une réglementation environnementale qui va bientôt être prête pour la construction neuve. Et ben cette réglementation environnementale, pour la première fois de toutes les réglementations, elle tient compte du poids carbone des matériaux. Et le poids carbone, c'est quoi? C'est toute l'énergie qu'il a fallu mettre dans ces matériaux pour les fabriquer. Alors là, pour le textile recyclé, c'est super parce qu'en gros, on n'a pas extrait des matières, on les a recyclées, donc ça, le poids carbone diminue. Et en fait, il y a plein d'autres producteurs et fabricants de matériaux qui ont des très bonnes solutions, mais qui sont tout petits et qui, de fait, ont des difficultés à faire valoir ces qualités. Parce qu'il faut, en gros, il y a un centre technique, c'est comme dans l'alimentaire, comme dans la santé, la pharmacie, etc. Il y a des centres techniques nationaux qui valident la mise sur le marché des produits. Et pour passer toutes ces étapes, c'est comme un parcours de combattant pour ceux qui connaissent un peu. C'est vraiment compliqué de sortir de nouveaux produits. Et donc, nous, le rôle CD2E, c'est aussi d'accompagner ces filières, ces entreprises, à, notamment d'éco-matériaux, à mettre leurs produits sur le marché en passant ces différentes étapes.
Parmi les éco-matériaux présentés dans ce théâtre de l'éco-construction figure le béton de chanvre que Frédéric Laroche du CD2E de Los Angoels aimerait voir se développer dans la région.
Ben nous aujourd'hui on travaille vraiment, pour parler de rénovation, c'est vraiment sur la filière chanvre, on met le boost aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce matériau de chanvre, vous verrez des blocs, il y en a derrière, mais qui sont pas sur de la brique. Mais vous verrez aussi de l'autre côté, puis aussi dans Réa Future, je crois. La filière chanvre, en fait, elle a plusieurs avantages. C'est déjà que l'isolation, elle est de qualité et qu'elle dure. Elle dure sur le temps. Sur le test de Réa Future où je vous ai dit, on a plein de capteurs. En fait, c'est le matériau qui a montré en 4 ans, puisque c'était ouvert en 2015 de l'autre côté, en 4 ans, le moins de variations sur sa performance dans le temps. Donc on se dit bah tiens là, si on veut apporter une garantie de performance, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de choisir des matériaux qu'on n'aura peut-être pas besoin de remplacer parce qu'ils vont durer, c'est extrêmement important. Il y a déjà ça. Après il y a le fait qu'il gère bien l'humidité, parce qu'il laisse passer cette vapeur d'eau de la même manière que la brique. Donc ça c'est avantageux. Ensuite, ils apportent du confort parce que la densité est assez forte. Et quand on apporte de la densité avec un matériau isolant, contrairement à un matériau qui est très aéré et qui est plus léger, eh bien, il y a notamment en été, et on le voit de plus en plus ces dernières années, il y a de plus en plus de pics de chaleur avec un nombre de journées de plus en plus importante à plus de 26 degrés. Ça, c'est un critère pour les spécialistes du bâtiment, dire pour avoir mesuré l'inconfort en été. C'est en gros les sensations d'avoir trop chaud et puis de ne pas réussir à ventiler ou alors de devoir mettre des systèmes de climatisation qui consomment énormément d'énergie. D'utiliser à l'inverse, de prendre soin de ce qu'on met dans les murs et de mettre des matériaux qui vont ralentir en été la diffusion de chaleur, et ben le béton chauffe coche aussi cette case. En bref, il y a plusieurs avantages. Et puis ensuite, vous pourrez dire, mais en tout cas, moi, c'est une des premières questions que j'ai posées. Mais je ne suis pas agriculteur et je ne suis pas spécialiste des filières agricoles, mais j'ai tout de suite été voir avec les équipes. Hein, il y a 15 spécialistes dans l'équipe. On a tout de suite été voir les agriculteurs régionaux, les experts nationaux, en disant, mais attention, si on développe ça à grande échelle, est-ce qu'on ne va pas empiéter sur d'autres filières comme l'alimentaire, par exemple? Parce que ça n'aurait pas de sens d'un point de vue environnemental de développer des filières pour la construction. Parfois, vous avez peut-être suivi la concurrence alimentaire. Sur l'automobile, par exemple, il y a eu de grands scandales là-dessus. Par exemple, le biocarburant qui est très développé au Brésil, par exemple. Mais en fait, on détruit l'Amazonie pour produire du biocarburant. Donc, c'est pas logique. Et là-dessus, banco, la fibre du chanvre, en fait, elle n'a pas besoin de s'enraciner très longtemps pour être produite. Donc, elles peuvent être produites entre les cultures. Dans la rotation habituelle des agriculteurs. Et donc, contrairement à d'autres fibres que nous, on avait étudiées pour, y compris, produire des écomatériaux locaux, il y en a qui ont besoin, par exemple, d'être enracinés sur plusieurs années pour produire et redonner régulièrement une ou deux fois l'année. Pour le chanvre, il n'y a pas besoin. Et puis, en plus, pour la production, il y a besoin de quasiment zéro phytosanitaire pour que ça puisse pousser. Donc, bref, d'un point de vue des questions de filière amont, aussi, le terrain est dégagé, on va dire. Et donc après, toute la question, c'est de dire comment on fait pour pousser une filière, parce qu'il y a très peu de production en région. Il y a des régions, notamment dans l'Aube, au sud de Paris, où il y a des productions de chanvre pour le bâtiment déjà plus importantes, mais ça fait un peu loin, et du coup ça rajoute des surcoûts, en fait, pour utiliser localement. Et puis ces matériaux, pour l'instant vous n'avez pas posé la question, mais ces écomatériaux coûtent encore trop cher. Sur les prix, aujourd'hui il y a deux matériaux dont les prix baissent fortement. Quand je parle d'écomatériaux, c'est la laine de bois, mais bon, qui n'est pas produite en région et qui arrive dans certains cas des coûts équivalents à d'autres matériaux classiques. Je ne vais pas dire traditionnels, parce que les vrais matériaux traditionnels, c'est ce qu'on faisait avant. Et puis ensuite, il y a aussi la ouate de cellulose, qui est papier déchiqueté, et qui lui consomme peu d'énergie aussi, parce qu'on peut déchiqueter à froid du papier et en mettant un liant, de faire ou en vrac, d'avoir un écomatériau. Alors que par exemple pour du polystyrène ou de la laine de verre, il faut chauffer des matériaux à plusieurs centaines de degrés, et c'est ça qui est embêtant, en fait. C'est que derrière, il y a une consommation d'énergie intense. Et d'ailleurs, sur les bâtiments très performants, en anecdote, sur les bâtiments très performants, la part de l'énergie grise, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il faut pour produire et amener les matériaux sur le chantier, quand on ne prend pas des écomatériaux, ça peut représenter jusqu'à 20 à 50 années de chauffage du bâtiment dans sa durée de vie normale. Donc cette question du poids énergétique des matériaux, il est important à prendre en compte. Alors, il y a une réglementation qui va arriver pour la construction neuve, mais dans la rénovation, c'est pas le cas. Donc, on va dire, on n'en tient pas compte pour l'instant, on regarde juste les propriétés, ce qui sont déjà bien. Et donc sur le chanvre, pour revenir là-dessus, là on met vraiment le coup de projecteur là-dessus, et puis on est en train de monter un consortium avec notamment ce bailleur social Maison et Cité, et puis d'autres acteurs spécialisés. Maison et Cité dit, je suis prêt, moi, dès le premier semestre l'année prochaine, à sélectionner une opération dans le cadre de RBM, avec 50 logements pour commencer. Et puis après, on a fait une étude technico-économique pour mesurer tous les aspects. Regardez, du point de vue agriculteur, des entreprises, combien il faut former, combien ça coûte de les former, combien vont être vendus les matériaux, comment on fait pour les produire, les transformer, bref, toute la chaîne. Et en gros, la réponse qu'on a obtenue, et qui a fait l'objet d'une analyse critique avec des experts nationaux, c'est qu'il faudrait ici, localement, autour de 1000 hectares produits par année de chanvre, et 2000 rénovations par an qui sont faites avec ce matériau. Si je dis ça, ces chiffres clés, en fait, c'est les chiffres de bascule pour atteindre des mêmes prix que sur d'autres matériaux. Parce qu'en fait, c'est pas une fatalité, en fait, de dire un matériau coûte trop cher. C'est juste une filière économique. C'est complexe, hein. C'est toute une filière économique à organiser. Et une filière économique, c'est quoi? C'est des producteurs, des acteurs industriels qui transforment, des entreprises qui posent. Et pour faire baisser les prix, notamment sur ce genre de choses, il faut une production locale. Si la transformation est facile et que l'outil industriel est adapté et pointu, ça peut aller très vite. Sur la distribution, si les entreprises ont des matériels adaptés pour poser et qu'on optimise des techniques, ça peut aussi aller très vite. Et s'il y a une production suffisante et un volume suffisant, alors les prix baissent. Et donc on a fait cette étude technico-économique, et donc aujourd'hui on a ce cap. On a ce cap à 5 ans sur le territoire. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs embarqués dedans, les acteurs, on va dire, opérationnels, comme Maison Cité. Il y aura des centres techniques, on est en train de les rechercher, les identifier, de les valider leur participation. Et les acteurs institutionnels aussi. Les acteurs de la troisième révolution industrielle, Philippe Vasseur, pour ceux qui sont en région, connaissent, Il y a un mois de temps, on lui a expliqué tout l'état du projet. Et c'est une filière qui soutient largement. Et il a demandé d'être associé pour nous aider et nous aiguiller dans le montage de projets, rechercher des financements, parce qu'il faudra les premières années des financements pour aider à mettre en place tout ça. Maison Usité, par exemple, s'est engagé à dire je suis prêt à utiliser mes logements comme cobayes sur les premières années, mais seulement, comme ça coûte plus cher les premières années, trouvons un moyen de financer le surcoût. Et si on trouve un moyen de financer le surcoût, alors ils sont prêts à tester avec nous à grande échelle. Et ce type d'opération-là, ça n'a pas encore eu lieu en région, sur du passage au changement d'échelle sur les écomatériaux.
Alors aujourd'hui, la part des écomatériaux dans ce chantier-là, RBM, c'est combien ?
Alors RBM, ça démarre, donc c'est pas
actuellement, est-ce que vous en avez une idée ?
Non, parce qu'on est en train d'analyser, pour vous dire, concrètement, aujourd'hui on est en train d'analyser les premiers dossiers, il y en a un ou deux en travaux, et puis il y en a quelques-uns qui démarrent, dont les études avancent sérieusement là. Et l'objet, c'est que le pourcentage croît. En tout cas, qu'il soit beaucoup plus important que la part régionale et nationale. Parce que les écomatériaux, ça représente à peu près 5 à 6% du marché aujourd'hui des matériaux des matériaux d'isolation en France.
Ma station, ma région, ma passion, Radio Plus.
À l'instant, au micro de Radio Plus, Frédéric Laroche, responsable du pôle bâtiment durable du CD2E de Los Angeles, qui nous faisait visiter le théâtre de l'éco-construction situé justement au CD2E. Direction ensuite Réa Futur, cette ancienne maison d'ingénieurs de près de 300 mètres carrés située à deux pas du CD2E qui a été rénovée de fond en comble à l'aide des techniques les plus avancées en matière de rénovation à haute performance énergétique et qui permet, outre son rôle de démonstrateur, de fournir des données très précises sur les performances des matériaux et techniques utilisées dans le cadre de cette rénovation, afin de mettre en œuvre certaines de ces techniques à plus grande échelle. Frédéric Laroche.
C'est d'abord un laboratoire pour tester tous ces écomatériaux. Du coup, je fais le fil conducteur par rapport à tout à l'heure, et de poursuivre cette question sur la qualité et la performance des matériaux. Donc, aujourd'hui, on a autant de matériaux que de façade, que sur le sol, à tous les étages, et puis sur la toiture. Et il y a 80 capteurs qui sont reliés derrière, qui permettent de voir en temps réel leur fonctionnement. Alors c'est hyper pointu, donc on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment on teste tout. Et c'est ça qui nous permet d'avoir nos connaissances, d'échanger avec des laboratoires, avec d'autres universités. On a même une personne dans l'équipe qui fait une thèse en lien avec un laboratoire régional pour creuser tout ça.
Là aussi, dans cette maison test Réa Futur, le béton de chanvre a été utilisé par endroits, comme l'explique Victor Ferreira, le directeur du CD2E de Los Angeles.
Quand vous avez une paroi entre béton, par exemple, et puis béton de chanvre, pour faire simple, quand arrive le soir, il fait froid dehors, et donc le froid rentre rapidement dans la maison. Et donc il faut augmenter le chauffage. Si vous avez de l'inertie, comme c'est le cas par exemple pour le béton de chanvre, eh bien, au lieu de passer en 30 minutes, il va mettre 5 ou 6 heures, je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour traverser. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'allumer le chauffage, parce que ça va venir progressivement. Et le matin, c'est une nouvelle journée qui démarre, ça se rééquilibre. Donc le fait d'avoir une inertie, un déphasage en fait, fait que ça automatiquement baisse le niveau de consommation énergétique.
Et ce déphasage provoqué par les différents matériaux utilisés lors d'une rénovation est également un critère très important l'été, comme l'explique Frédéric Laroche.
Le fait d'avoir ces déphasages, en fait, c'est une autre valeur que ce qu'on lit quand on achète un matériau. Pour un artisan du bâtiment, en général, la seule valeur qu'il regarde, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique. Donc, regardez combien les calories vont être freinées pour un matériau donné quand il va le mettre en œuvre. Mais il y a plein d'autres caractéristiques. Et il y a cette question de déphasage. Et cette déphasage, ça s'exprime en heures. Et il y a des matériaux, comme laine de verre par exemple, qui sont autour de 2 heures de déphasage. C'est-à-dire qu'en gros, en plein été, avec un pic de chaleur, à 14 heures, à 16 heures, l'énergie, elle a passé les différentes phases de la paroi. Avec des matériaux comme il y a la laine de bois compacte ou le béton de chanvre, il y a quelques matériaux compacts, c'est pas tous les écomatériaux, c'est une partie d'entre eux, qui ont un déphasage plus important, qui va jusqu'à 10 à 12 heures. Et ce déphasage permet, par exemple, en été, de garder une fraîcheur et un confort intérieur en été. Parce que le pic de chaleur, il va pas rentrer à 16 heures, il va rentrer à 20, 22 ou minuit. Et donc, par rapport à la baisse de température extérieure, ça va équilibrer. Et ça, c'est vraiment important pour l'avenir. Parce que, encore une fois, je le disais, les nombres de journées de chaleur augmentent chaque année dans la région. Bien sûr, dans le sud, ils sont encore plus concernés. On parle même d'arrivée de climats tropicaux avec des conséquences que ça peut avoir dans le sud de la France. Pour vous donner un exemple, en région PACA, sur les deux dernières années, il y a eu un boom énorme. Alors, j'ai pas le pourcentage d'achats de climatisation. Par contre, j'ai quand même un chiffre qui est extrêmement parlant et qui est fort. C'est que rien que pour la climatisation de tout le sud des États-Unis, ça représente autant d'énergie que toute la consommation électrique de l'Afrique pour tous les usages. Donc cette climatisation, c'est un nouveau problème pour demain. Alors bien sûr, allons dire aux personnes âgées dans la région, dire « Ah ben non, il faut surtout pas acheter de clim, même s'il fait chaud, c'est pas possible. » Donc c'est pas possible de dire ça, parce qu'on va mettre en difficulté les personnes. Il y a des gros sujets sanitaires derrière, en fait. Mais par contre, il faut anticiper. Ben, nous, experts du bâtiment, et puis après avec toute la filière, dire ben, comment on peut faire pour que dans 10 ans, dans 20 ans, où les températures vont vraiment monter encore d'un cran, et bien anticiper ce problème-là, parce que demain ça peut être la question de la consommation d'énergie, ça peut être la question de la climatisation qui va poser un grand problème. Et donc ces éco-matériaux, encore une fois, apportent des solutions là-dessus.
On poursuit à présent ce sujet avec un témoignage, celui de Jean-Luc Lemaire, qui habite à Achicourt et qui a racheté la maison de ses parents. Il a décidé de la rénover complètement et c'est un artisan qui lui a conseillé de contacter le CD2E et qui lui a parlé également de la garantie de performance énergétique que comptait mettre en place le CD2E.
Moi, ça a démarré en fait par recherche sur un produit qui a été proposé par un artisan qui m'a dit essayez de vous rapprocher en fait du CD2E pour voir un petit peu. Et puis effectivement, donc en me rapprochant du CD2E, de fil en aiguille, on est parti justement sur la rénovation énergétique. Et c'est là où je me suis dit, pour mon projet de reprise d'habitation, ça pourrait être intéressant et ça m'assurerait justement des écueils qu'on peut rencontrer. Parce que c'est vrai que quand on va frapper à la porte d'un artisan, et Dieu sait comme j'en ai vu, on propose des produits pour une même prestation, mais multitude de produits, et on n'est jamais sûr justement du résultat. Donc là, je me disais qu'effectivement, avec le CD2E, ça me permettait justement d'avoir une garantie sur le long terme, justement, des travaux qui seraient réalisés et sur ce qu'on allait me proposer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, avec M. France, on est en train en phase d'étude, justement, enfin ça se finalise, sur tous les travaux, que ce soit sur de l'ITE, c'est la rénovation en fait par l'isolation par l'extérieur, par l'intérieur également, aussi sur un mode de chauffage, pour justement réduire les coûts et aussi pour avoir une meilleure qualité de vie après pour l'ensemble des occupants de l'habitation.
Le coût des travaux dans le cas de Jean-Luc Lemaire est conséquent, près de 100 000 euros, car il comprend également une remise aux normes complète en électricité. Mais certaines subventions peuvent permettre de réduire ce coût et surtout la performance énergétique est là garantie. Or, ces derniers mois, de nombreuses arnaques sur les rénovations à 1 euro notamment ont fleuri sur Internet, mais aussi par voie postale et par téléphone, soit en envoyant en particulier de faux courriers avec l'entête du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et en poussant ces derniers à faire des travaux aux résultats médiocres, soit en démarchant de manière abusive par téléphone les particuliers à cause d'une faille dans le dispositif de l'État concernant les certificats d'économie d'énergie, une prime payée par les fournisseurs d'énergie sous condition depuis la mise en œuvre du protocole de Kyoto de 2005 qui permet aux artisans de se faire rembourser les sommes engagées dans les travaux de rénovation, mais certains d'entre eux en abusent et essayent d'obtenir des certificats d'économie d'énergie basés sur des chantiers fictifs avec des factures fabriquées de toutes pièces en faisant croire aux particuliers que les travaux sont obligatoires. L'État ne devrait-il pas s'inspirer de la garantie de performance énergétique du CD2E ? La réponse de Victor Ferreira.
En tout cas, on peut être une des réponses par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que les professionnels sont très embêtés avec ce type de démarchage intempestif, une image très négative, et puis surtout, beaucoup de gens qui se disent « je vais se rouler ». Donc, il y a à faire le ménage sur ces éléments-là. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas un système qui garantit ou qui propose un niveau de performance, on aura toujours ce type de choses. Quelqu'un vous dira « vous inquiétez pas, ça va vous coûter tant, vous allez baisser vos factures de 80%. » C'est rien qui est fait. C'est un peu comme si vous achetiez une télé et puis vous ne savez pas si vous allez pouvoir voir TF1, France Télévisions ou que sais-je. En tout cas, vous avez la télé. Mais qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat exact ? C'est le point d'interrogation. Puis vous découvrez après que finalement, vous n'aviez pas ce que vous vouliez.
Enfin, un des objectifs à terme très ambitieux de l'État à travers l'engagement pour le renouveau du bassin minier en 2017 est de transformer 23 000 logements miniers, qui sont des passoires thermiques, en logements basse consommation. C'est dans ce cadre que le bailleur Maison et Cité, avec l'appui du CD2E, a entrepris la rénovation de 6 maisons minières avec pour objectif d'en réduire par 4 la facture énergétique. C'est le projet Réa Futur 2 qui sert de test grandeur nature avant une mise en œuvre plus large. Nicolas Guézel, responsable adjoint du pôle bâtiment durable du CD2E, nous fait visiter une des maisons fraîchement rénovées.
Donc ici on est à Réa Futur 2. C'est une maison qui fait partie d'un ensemble de 6 maisons minières qui ont été réhabilitées dans le cadre d'un projet expérimental également. C'est la suite en fait du bâtiment que vous avez visité tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans une maison d'ingénieur. Et là, l'idée, c'est de voir comment on duplique au niveau des maisons minières et comment on peut demain massifier en fait l'usage de ces matériaux écologiques avec une performance énergétique qui est ciblée au niveau basse consommation. Ces bâtiments-là, ces 6 maisons minières sont également truffées de capteurs. L'idée, c'est de pouvoir analyser ce qui se passe à l'intérieur des matériaux. Typiquement, comment ça vieillit, comment ça se comporte face aux problématiques d'humidité des bâtiments anciens. Et la notion de confort, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'humidité, la température, le CO2 à l'intérieur de ces logements pour vérifier que les locataires n'ont aucun problème à l'usage, en fait. Et donc, ces logements vont être suivis pendant 3 ans par un étudiant doctorant qui fait partie de notre équipe et qui va analyser en permanence ce qui se passe. Au-delà de ce projet, en fait, l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'en fait, les résultats sont probants et qu'on peut généraliser l'utilisation de ces matériaux, ces objectifs performantiels, et qu'en fait, les problèmes techniques n'en sont plus, et qu'aujourd'hui, on peut largement aller vers de la performance énergétique très faible, des consommations aux alentours de 500-600 euros pour les ménages en termes de chauffage. Par an, bien sûr. Bien sûr, par an. Autre particularité ici, donc en termes de matériaux utilisés, on a de la fibre de bois au niveau des murs, 14 cm de fibre de bois, 30 cm de watts de cellulose en toiture.
En toiture.
Voilà. Et du liège, l'utilisation du liège expansé au niveau du sol. On a 12 cm de liège au niveau du sol. Voilà. On s'est assuré pendant la programmation, la conception et la réalisation d'avoir une enveloppe étanche à l'air. Donc il y a des tests d'étanchéité à l'air qui ont été réalisés et avec des résultats équivalents à ce qu'on peut avoir dans le bâtiment neuf aujourd'hui. Sur la consommation théorique, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure, on était sur une étiquette G initialement. Mmh. Et aujourd'hui, on est sur du C, ce qui fait qu'on a à peu près divisé par 7 voilà. Ici, on est en isolation par l'intérieur. Comme sur les 5 autres maisons de ce projet. En fait, sur une grande majorité du patrimoine de Maisons et Cités, on est soumis à des classements UNESCO, qui fait qu'on ne peut pas toucher en fait, à l'extérieur, à la façade du bâtiment.
Cette rénovation pour améliorer de manière conséquente la performance énergétique de 23 000 logements miniers n'aurait pas pu être envisagée sans le soutien de l'État à travers le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, comme l'explique Frank McFarlane, du département appui technique et innovation de Maisons et Cités.
Le RBM, c'est un dispositif qui a permis d'accélérer la rénovation. On avait plus de 20 000 logements rénovés normalement pour 2020. On était incapable de le faire. L'État a été alerté. On a été chercher des fonds auprès de l'État et on a fait entrer au capital la Caisse des dépôts et consignations via la CDC Habitat. Et grâce à ça, on va réussir à faire ces 23 000 logements en 10 ans, alors que avec notre investissement initial, on savait qu'on allait dépasser les 20 ans. Donc on a doublé le rythme, ou alors une autre manière de le dire, c'est qu'on a diminué par 2 le temps pour tout rénover.
Coût minimum de la rénovation par logement, 70 000 euros. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée au CD2E de Los Angeles qui présentait à la presse ses solutions en matière de bâtiment durable. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Plus, www.radioplus.fr. À bientôt.